À 7h38, on va maintenant se poser la question de savoir si les dieux un jour seront dépassés. Écoutez.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Plus vite, plus haut, plus fort, nous allons partir ce matin de la devise olympique, puisque c'est d'actualité, et nous demander ce qui se passerait si elle devenait une sorte de commandement éternel, si on repoussait les limites du corps humain, de ses performances, de sa longévité, jusqu'à plus n'en avoir. Alors du coup, évidemment, la réflexion qu'on va poursuivre avec nos invités ce matin s'annonce vertigineuse. Jusqu'où peut-on améliorer le corps humain? Quel avenir nous attend si la technologie parvient à percer les derniers secrets du vivant et à rendre éternel, non pas simplement une devise, mais l'humain. Nos invités ce matin pour parler transhumanisme, Pascal Pic, maître de conférence à la chaire de paléontologie et préhistoire au Collège de France. Bonjour.
Bonjour.
Et Guy Valencien, professeur de chirurgie, membre de l'Académie nationale de médecine. Bonjour.
Bonjour.
On va essayer d'aller très loin avec vous deux ce matin, de dépasser les affaires de dopage qui semblent relever d'une époque presque révolue déjà, pour prendre les dernières nouvelles du transhumanisme. Pascal Pic, on en est où?
Ah, les dernières nouvelles, ça s'est un peu calmé, mais effectivement, c'est un grand discours qui semble tout à fait nouveau, compte tenu effectivement des avancées prodigieuses, notamment en médecine. Le professeur Guy Valencien va en parler mieux que moi. Et donc, du coup, ça ouvre des tas de questions sur les possibilités de dépasser effectivement les limites que nous aurait donné la nature par notre évolution. Alors, soyons clairs, c'est pas nouveau, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des moyens comme jamais dans l'histoire de l'humanité, des connaissances comme jamais dans l'histoire de l'humanité, et puis une convergence très très forte, ce qu'on appelle les NBIC, donc nanotechnologie, biologie, notamment naturelle et de synthèse, et convergence informatique et sciences cognitives. Donc tout ça, évidemment, c'est très clair, va avoir un énorme impact, et ça en a déjà, notamment en médecine et sur notre santé. Mais par ailleurs, l'affaire n'est pas nouvelle, parce que dès qu'il y a eu des évolutions technologiques majeures dans l'histoire de l'humanité...
Le stéthoscope, ça a été déjà...
Oui.
Façon d'améliorer l'exploration.
Oui, absolument. Ben, un des premiers transhumanistes, mais le terme n'était pas du tout d'actualité, c'était le fondateur de ce qu'on appelle la médecine évolutionniste. Il s'appelle Darwin, mais c'est pas Charles, c'est le grand-père Charles Darwin, qui a Erasmus, pardon, qui est grand médecin moderne, qui est l'idée d'utiliser l'électricité. Et d'emblée, ça va donner Frankenstein. Donc à chaque fois qu'on a eu cela, des avancées formidables, comme les transfusions sanguines, par exemple. Et, là, c'était au tournant du XXe siècle, avec beaucoup d'utopie et de délire, assez dramatique d'ailleurs, je dois le dire, sur les xénogreffes, ce qui donnera l'île Docteur Moreau. Donc à chaque fois, il y a eu cette idée qu'on pourrait remplacer des parties du corps, les améliorer. Mmh. Et aujourd'hui, évidemment, ce sont avec ces technologies absolument extraordinaires qui font notre quotidien.
On part de l'idée de réparer les vivants, mais on a l'impression qu'on est arrivé à un tournant, Pascal Pic, un tournant dans la vie, dans le parcours de l'espèce humaine. Comment est-ce qu'on le définit, ce tournant? Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce que le diagnostic est bon? Et comment on le pense?
Moi, je pense que le transhumanisme fait un mauvais postulat. Pour eux, l'évolution de l'homme est arrivée à son terme, et donc c'est ce que certains philosophes appellent le solutionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, on postule que les éléments de notre organisme, même le cerveau d'ailleurs, sont arrivés à la limite, donc on va substituer, donc dont le solutionnisme, c'est le terme, par d'autres artefacts. Alors le problème est que en effet, ils ont une très mauvaise connaissance de l'évolution. Ça, c'est un vieux schéma de la pensée humaniste au sens très clair du terme, consiste à dire il y a une évolution biologique et puis on va prolonger par les innovations de l'homme. Voilà. Très bien, la médecine en est un des éléments les plus concrets aujourd'hui. Ouais. Mais là, on va beaucoup plus loin sur des idées de la maladie, c'est une anomalie, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, et que même la mort est une anomalie, et ça, c'est une grande question de philosophie et d'anthropologie. Et derrière cela, ce qui est absolument troublant en effet, c'est qu'ils connaissent mal l'évolution. Par exemple, vous parliez des Jeux Olympiques. Eh bien, un de mes collègues australiens a sorti un livre il y a maintenant 2 ans, s'appelle « Manthropology ». Et si les hommes de Néandertal et les hommes de Cro-Magnon, c'est-à-dire vous et moi, Cro-Magnon, c'est nous, vous et moi, Homo sapiens, ouais. Il y a 30 000 ans, arrivés aux Jeux Olympiques aujourd'hui, je peux vous dire que même les Russes bien dopés auraient une mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'en fait, les transhumanistes oublient quelque chose de fondamental. C'est que nous ne sommes pas des espèces qui sommes indépendants de l'environnement et... Nos vies sociales, nos vies affectives, nos régimes alimentaires, etc., jouent certainement un rôle beaucoup plus important. Et ce qui me trouble dans le transhumanisme aujourd'hui, c'est qu'ils ne tiennent pas du tout compte, de ces aspects environnementaux. Et l'évolution n'a jamais été cumulative et linéaire. Et c'est là qu'ils font une erreur fondamentale.
Il y a le génotype qu'on peut trafiquer, puis il y a le phénotype, c'est ça, Pascal Pic, que vous nous dites. Guy Valencien, est-ce qu'on est dans le délire dont parlait à l'instant Pascal Pic?
Ah oui, je rejoins tout à fait Pascal Pic sur le sujet. Ce qu'il appelle les solutionnistes, et c'est le terme qui est utilisé, est véritablement une dérive typique des mentalités d'ingénieurs. J'aime bien les ingénieurs parce que je travaille avec eux et j'ai développé des techniques chirurgicales avec eux. Mais l'ingénieur, quand il pose un problème, pense qu'il peut le résoudre. Et là, on est typiquement dans l'extrême développement de ce type de raisonnement, c'est-à-dire un neurone peut être remplacé par une puce de silicium. Et IBM vient récemment d'être tout content d'avoir pu remplacer quasiment le cerveau d'un petit rongeur en mettant 48 millions de petites puces de silicium en disant ça correspond aux 48 millions de neurones du rongeur. Eh bien, on mettrait 100 milliards de neurones, qui sont le nombre de neurones que nous avons dans la tête, remplacés par des puces de silicium, on ne serait pas un homme. Parce que nous sommes totalement différents, et je rejoins Pascal Pic, l'évolution nous fait tous les jours différents. En gros, je sais que je pense, je pense donc j'agis, j'agis parce que j'échange, mais en permanence je change. Et il n'y a pas un homme, nous sommes dans une évolution, et ce qui est étonnant c'est qu'on s'aperçoit que, et là je ne vais pas devenir en anthropologue, j'ai compris, je crois que ce ne sont pas les plus grands et les plus forts qui gagnent. Les bactéries ont 3 milliards d'années, les dinosaures sont morts. Et donc on voit bien que cette vision mécaniste, purement mécaniste, qui est sous-tendue par un effet de pseudo-démocratie, ouais, où on vous dit, mais on va tarir le mal, on va terrasser la mort, en fin de compte c'est une vision beaucoup plus hyper-capitaliste. C'est-à-dire c'est le Nasdaq et Wall Street qui en profitent. Quand on regarde Peter Diamantis, qui est avec Kurt Weill, l'un des deux gourous de la Singularity University, il n'hésite pas à dire, oui, mais il y a un tas de trucs à se faire, et les investisseurs sont là. Donc on voit bien cette dérive totalement maniée par l'argent, au prétexte que nous allons améliorer l'homme en faisant disparaître le corps. Le corps est une espèce de pourriture qui gêne.
Qui est gênante, ouais.
Complètement faux, parce que nous sommes en permanence, enfin le cerveau tout seul, mais rien. Je vais vous dire, le cerveau c'est 1400 grammes, dont 75% d'eau, 20% de graisse et 5% d'autre chose.
Ouais, on n'arrivera pas à le rattraper. Vous nous dites le solutionnisme donc est voué à l'échec. Guy Valencien, parlez-nous quand même de Greg Venter qui a créé là récemment une cellule de toutes pièces en programmant un génome sur ordinateur, en créant l'ADN correspondant et en l'implantant dans une cellule.
Alors, il n'a pas créé la cellule et c'est là où c'était très intéressant. Il a effectivement enlevé le génome d'une cellule et il a mis un génome à lui qu'il avait trafiqué sur son ordinateur. Il avait déjà fait une partie il y a quelques années, en 2008. Mais personne ne sait aujourd'hui comment créer une cellule. C'est tout à fait étonnant. Nous ne savons pas comment ça marche. Et à la limite, je dirais, le génome est le plus facile. Et le génome n'est pas uniquement ce qui nous fait. Nous sommes tous les jours bombardés de rayonnement, notre génome change en permanence. Je ne suis pas aujourd'hui ce que j'étais hier, ce que je serai demain.
Pascal Pic.
Et mes enfants ont en moyenne 40 à 50 variations, mutations par rapport à moi-même.
Voilà, l'influence donc, toujours de l'environnement. Alors, Pascal Pic, est-ce qu'on va doubler Darwin, Charles Darwin pour le coup
Il faudrait qu'effectivement, alors ça a des grands arguments par exemple de quelqu'un qui est bien connu en France, qui est Laurent Alexandre, qui dit effectivement grâce à la médecine moderne, nous avons une action très très forte autour de la mortalité infantile. Hein. Jusqu'à quasiment la Première Guerre mondiale, il y avait un facteur de sélection sur les enfants qui était terrifiant. Donc à partir de là, ils disent, vous voyez la sélection naturelle, donc le processus central de la théorie darwinienne, c'est terminé. C'est complètement faux. Parce que ça voudrait dire, et c'est ça le vrai problème, c'est que on va solutionner, mais imaginez, attendez, je donne un exemple. Qui aurait pensé que ma génération, je peux le dire à la radio, j'ai 60 ans, aurait eu une telle expérience de vie en moyenne et en bonne santé. Ça, c'est un résultat de changement d'environnement après la Seconde Guerre mondiale, sur l'hygiène, le sport, l'alimentation, etc. Et donc, on a pu exprimer des potentialités qu'on n'imaginait pas. Ce qui, d'ailleurs, a complètement mis par terre notre système de retraite par répartition. Personne n'imaginait que nous avions une telle réserve. Donc, l'évolution est en fait beaucoup plus généreuse qu'on ne le croit, parce qu'elle est plus aller dans des adaptations, mais aussi des potentialités qui sont non exprimées parce qu'on ne connaît pas les environnements qui vont arriver. Maintenant, mettez-vous dans la position des solutionnismes tels que c'est évoqué par Monsieur Guy Valencien. Vous pouvez vous dire, attendez, à 40 ans, vous avez un problème, donc je vais remplacer par un artefact. Alors qu'on ignore complètement qu'on pouvait avoir une espérance de vie supplémentaire ou des possibilités de rémission ou autre. Donc du coup, c'est pas un anti-évolutionnisme, c'est un non-évolutionnisme, auquel cas. Et derrière cela, il y a des enjeux, et ça a été très bien dit par Monsieur Guy Valencien, il y a des enjeux quand même assez étonnant d'un point de vue du système économique et politique, on n'en a pas parlé, qui est derrière. Par exemple, Peter Thiel. Peter Thiel est un quelqu'un qui est très impliqué dans ces affaires-là. C'est un des papes du transhumanisme aux États-Unis. Il a été d'ailleurs un des fondateurs de PayPal, donc il a fait fortune et il investit beaucoup. Alors, il a dit cette chose récemment, parce qu'il est passé en Europe pour présenter son livre. Il a dit, on lui demande, mais pour quelle raison investissez-vous, vous investissez autant dans le transhumanisme ? Il dit, vous savez, on est dans une société au niveau mondial qui n'a plus de projet. Et donc, dit-il, c'est le seul projet qui reste dans lequel je vais investir. Notamment, dit-il, en Europe, on a des taux d'intérêt négatifs. Donc, voyez l'articulation comme elle est extrêmement. Pour ça que Monsieur Guy Valencien parle de capitalisme. C'est une espèce d'hypercapitalisme qui essaie de trouver un enjeu d'avenir sur lequel investir.
Et quand Google dit vouloir tuer la mort un jour, qu'est-ce que ça fait aux paléo-anthropologues que vous êtes
Ça va tuer la vie. D'ailleurs, vous savez, on y est déjà d'un point de vue anthropologique. Aujourd'hui, on a une maîtrise totale sur la naissance, quasiment. Ok, on peut décider et on sait maintenant.
C'est-à-dire qu'on est déjà dans une petite partie dans l'eugénisme.
Et la prochaine étape, c'est la mort. Alors, c'est pas faire reculer la mort, c'est décider de à quel moment on décide de mourir en bonne santé. Alors, en ce moment, ça résiste, notamment en France. Donc, déjà, ce sont des enjeux anthropologiques majeurs, parce que toutes les sociétés humaines ont apporté des réponses autour de la naissance, de l'éducation, des rituels de passage et de la mort. Est-ce que c'est du transhumanisme ? Non, c'est une autre façon de considérer ces éléments fondamentaux de la vie. Et puis autre chose qui a été esquissée par Monsieur Guy Valencien, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. L'ingénierie inverse, ça veut dire quoi ? C'est que plus des structures et leurs fonctions sont apparues il y a longtemps dans l'histoire de la vie, plus ce sera difficile de les répliquer d'un point de vue des techniques, aussi sophistiquées et géniales soient-elles, des ingénieurs.
C'est-à-dire qu'on ne peut régler que des problèmes récents dans la chaîne de l'évolution humaine ?
Alors ça, c'est un des paradoxes dans l'intelligence artificielle. Il est plus facile de résoudre des problèmes récents que des problèmes anciens.
Ouais. Guy Valencien, est-ce qu'on va pouvoir repousser les limites de la vie ?
Alors écoutez, on a déjà, en fait, pour l'instant, on gagne en espérance de vie. On n'a pas gagné en durée de vie, parce qu'il y a toujours eu des personnes âgées. Oui. Hein, simplement, comme il l'a été rappelé par Pascal Pic, il y avait une mortalité infantile écrasante, il y avait des guerres, des épidémies, des famines. Donc aujourd'hui, on est en train de rejoindre notre durée de vie qui est globalement, allez, on va aller à 100 ans. L'homme est fait à peu près pour 100 ans, on y va tranquillement. Ah, mais chaque jour, on gagne 6 heures, je vous signale. Chaque jour, nous gagnons 6 heures de vie. Donc plus on vieillit, plus on gagne d'années de vie, c'est merveilleux. Mais alors, on va pouvoir, sur le plan biologique, des travaux tout à fait sérieux montrent que l'on va peut-être pouvoir augmenter de 25 à 30% la durée de vie, aller à 150 ans. On le fait chez la souris et elle se porte bien. Alors la souris n'est pas un modèle reproductif chez l'homme. On verra bien ce qui se passe. On commence quand même, c'est intéressant, mais on va créer aussi des anomalies, car tout effet positif est contrebalancé par un effet négatif dans la nature. Et fatalement, on va s'apercevoir de choses que l'on ne connaît pas. Mais en scientifique que je suis, il faut aller au bout. Je pense que la science est amorale. Elle doit faire son travail. C'est ensuite que les sociétés doivent s'emparer des résultats et des découvertes pour savoir si oui ou non on les applique. Mais aujourd'hui, il faut que nous nous posions la question de la faisabilité et de l'utilité des technologies qui sont mises au point par les Google et autres. C'est un vrai problème. Et là, les gouvernements sont très en retard, les peuples ne sont pas informés, et bravo pour de faire cette émission, parce que véritablement, il y a effectivement, comme l'a dit Pascal Pic, un retard énorme des Européens, notamment des Français, sur ces questions-là qui sont vitales. Je dirais que la COP, c'est bien gentil, mais on s'en fout.
C'est-à-dire que les choses se passent... Non, on s'en fout pas. C'est important aussi. Les choses se passent donc sur la côte pacifique, Pascal Pic, et nous, on regarde pas, on regarde ailleurs.
Ah, d'une manière, parce que je fais partie de l'Observatoire de l'ubérisation de la société et de l'Institut de la souveraineté numérique, il est vrai qu'on a un retard général dans notre société et au niveau politique, d'ailleurs en premier, c'est dramatique, sur ces bouleversements qui touchent déjà l'ensemble de nos vies, mais en termes de communication, de culture, mais surtout de santé. Ce qu'on appelle la médecine 4P, c'est-à-dire prédictive, participative, préventive et personnalisée, enfin, il y a toujours une que je confonds. C'est donc c'est-à-dire que là, déjà, on peut critiquer Google et les autres, mais effectivement, ils bousculent nos habitudes. Nous avons des appareils aujourd'hui que nous avons dans nos poches qui nous permettent, pensez aux diabétiques, la lourdeur du traitement des diabétiques aujourd'hui est largement améliorée et c'est beaucoup moins contraignant, en tout cas c'est plus aisé pour ces maladies quand même très contraignantes. Donc, il y a des progrès extraordinaires. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, le professeur Guy Valencien a raison. Moi, j'ai participé à des débats sur la médecine numérique, etc. Et on ne peut pas dire, attendez, les gens comme Google ou autres, exagèrent, ils ont quand même bousculé cela et ça nous apporte de véritables bienfaits. Derrière, restons darwiniens, c'est pour ça qu'on reste dans un monde darwinien, sachons effectivement regarder l'ensemble des propositions qui sont faites, solutions technologiques et autres, et puis derrière, bah, les comités d'éthique sont là, les enjeux politiques, mais cette réflexion n'est pas là. Donc on est en train de critiquer le transhumanisme parce qu'effectivement il y a déjà des solutions qui sont apportées d'un point de vue technologique, donc on voit que ce grand projet, mais derrière cela, effectivement, on va s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mobilisation éthique, philosophique et politique là-dessus.
Mais justement, c'est ça, le comité d'éthique fera rien contre Google.
Mais il n'est pas question de faire rien. C'est-à-dire que derrière, qu'est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Quels sont les enjeux? Aujourd'hui, effectivement, c'est pas te dire que c'est bien ou c'est mauvais. C'est de savoir, effectivement, quels sont les bénéfices que la société entend accepter en fonction des valeurs qui sont en train de changer.
C'est que des bénéfices, Guy Valencien?
Attention, nous sommes dans une mutation irréversible, non pas dans une révolution, parce qu'une révolution, il y a toujours une restauration souvent pire que l'état antérieur qu'elle voulait désinguer. Nous sommes dans une mutation, nous ne reviendrons pas en arrière. On commence à se rendre compte, on a vu les immenses bénéfices, et jamais je n'irai attaquer Google en disant que ce sont des ignobles, les bénéfices sont ignobles, mais en même temps, nous vendons notre âme. Nous savons que les plateformistes, ce qu'on appelle les GAFA, les quatre, Google, Amazon, Facebook et Apple, rôdent au-dessus du monde. Ce sont des entreprises hors des États et qui vous prennent tout ce qu'ils veulent tous les jours, des milliards de clics que nous faisons. Donc nous payons en fait très cher la liberté de pouvoir accéder aux bibliothèques du monde et de pouvoir avoir toute l'information que l'on veut. Nous le payons beaucoup plus cher qu'on ne le croit, sous une pseudo-gratuité qui est extrêmement dangereuse.
Mais c'est précisément aussi ce qui est inquiétant, non, Pascal Pic? Moi, je m'attendais à un peu plus de réaction.
Non, mais bien sûr, mais c'est tous les enjeux qu'on appelle les données.
Google va créer un homme nouveau, en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est pour ça qu'ils nous le vendent, en tout cas.
Attendez, pendant longtemps, nos grandes religions monothéistes nous ont dit « Comportez-vous de manière honorable et fidèle dans l'espoir d'une vie éternelle. » Donc, en fait, on est sur le même schéma. De ce côté-là, fondamentalement, c'est pas nouveau, sauf qu'on a remplacé Dieu par des déités technologiques. Donc on est sur des schémas parfaitement humains et anthropologiques. Mais par exemple, sur l'augmentation de l'espérance de vie, et on espère en bonne santé. Ça, c'est un débat qui n'est pas du tout abordé. On appelle ça les hétérochronies. On a évoqué la souris tout à l'heure. En fait, l'évolution nous a légué en fait, ce qu'on appelle des paramètres d'histoire de vie, pardon, d'être un peu technique, c'est-à-dire le temps de gestation, sevrage, enfance, adolescence, et puis... ensuite, si tout va bien, l'espérance de vie. Or, aujourd'hui, on ne connaît personne qui a vécu de plus 120 ans.
Oui, 120, 125, ça serait la limite biologique.
Et donc, par contre, si on franchit cette limite, on ne va pas gagner 10 ans, 20 ans ou 30 ans.
On peut aller jusqu'à 500.
On n'en sait strictement rien, parce qu'effectivement, on va passer dans un monde complètement post-darwinien que personne ne connaît.
Mais ça vous inquiète pas, le
paléontologue? Ah si, ça m'inquiète, mais bien sûr que ça m'inquiète. Moi, parce que derrière cela, ça veut dire quoi? Si on est capable de vivre aussi longtemps, quelle va être la durée de votre temps de travail? Quelle va être votre relation avec vos enfants et les différentes générations?
Et puis quel est le sens de la vie? Si la vie est éternelle,
ben oui, tout ce qui est le sens de la vie est lié à la mort, effectivement. Et derrière cela, ça pose de vrais enjeux, parce que ça sera une société, et là il y a toute une idéologie qu'on appelle libertarienne, ce qu'on appelle un humanisme évolutionniste, qui est réservé qu'à certaines élites, même si ces technologies sont de plus en plus abordables. Donc moi, mon inquiétude est moins des évolutions des technologies qui la recherchent, que la manière dont vont être a priori appréhendées ces technologies pour soigner les gens et surtout créer une nouvelle société, parce qu'il y a de vrais enjeux qui sont extrêmement à la fois utopiques et l'utopie toujours fascisante.
Et Guy Valencien, la vie éternelle, ne plus avoir à faire d'efforts, ne plus rien attendre d'un entraînement quand on est sportif, ça vous inquiète pas?
C'est insupportable. Je vais dire pourquoi, parce que l'immortalité... l'immortalité, mais c'est l'ennui même. Quand une valeur devient infinie, elle perd sa valeur. Elle n'est plus comparable. Donc, ce qui nous fait être, c'est le temps. Les désirs, c'est le temps. C'est parce que je sais que j'ai un moment pour les assouvir. Mais si j'avais le temps de tout faire, je m'ennuierais profondément. En plus, effectivement, comme le dit Pascal Pic, que ferions-nous? Il faudrait qu'on ait plus d'enfants. Parce qu'on ne va pas se retrouver à 50 milliards sur la Terre. Ou alors il faut, comme le font certains, se dire on va quitter cette Terre, aller sur Mars, coloniser d'autres planètes, parce qu'on ne pourra pas tenir. On est dans ces délires-là aujourd'hui, de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc je pense que véritablement, le but de l'immortalité est une absurdité. La mort n'est pas une maladie. Et donc, visiblement, il faut l'accepter. Elle est dans la nature. Donc restons sages. Acceptons la mort. Dans l'Occident chrétien, cet Occident chrétien, la mort est vécue avec un Jésus en croix. Elle est terrible. Hein? flageller, fouetter avec sa couronne d'épines, c'est ça la vision que nous avons dans nos pays, dans nos vieux pays européens. La mort est vécue comme ça.
Bon, vive la mort, c'est ça
Vive la mort, non, mais la mort et la vie sont indissociables. La chose étant, moi je rappelle à travers les travaux de l'Université de la Singularité, qui est au cœur de tout cela aux États-Unis, donc dans la Silicon Valley, donc surtout à San Francisco, il y a un socle qui nous vient de la culture russe il y a un siècle. Et cette histoire de vie éternelle et de conquête spatiale est complètement liée. Il y a un des papes, à titre posthume, qui s'appelait Monsieur Fedorov, qui est un des théoriciens et philosophes qui a beaucoup influencé la conquête spatiale chez les Russes et la médecine russe, qu'on ignore beaucoup en Occident. Et le seul intérêt, effectivement, et c'est pour ça que c'est très important, le seul intérêt de l'éternité, ça sera la conquête spatiale. Donc, faut bien comprendre que l'immortalité est indissociable de la conquête spatiale, parce que sinon, effectivement, c'est la surpopulation assurée. Donc, c'est pour ça que ces deux idées sont complètement liées et qu'on retrouve des gens avec SpaceX, etc. Ouais, c'est parfaitement cohérent.
Toujours plus vite, toujours plus haut, plus fort. Voilà, la boucle est bouclée. Merci à vous deux, Pascal Pic, paléo-anthropologue au Collège de France. Je renvoie à la lecture d'un de vos derniers ouvrages, Le retour de Madame Néandertal, Comment être sapiens, publié l'an dernier chez Odile Jacob. Et Guy Valencien, merci à vous aussi, membre de l'Académie nationale de médecine, auteur de La médecine sans médecin, le numérique au service du malade chez Gallimard.